L'agriculture est un domaine en permanente transition et nous vivons dans un territoire riche en initiatives agricoles et alimentaires.
C'est pourquoi Radio Pays d'Hérault, en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault, a rencontré des agriculteurs et des agricultrices de différents horizons.
Ils nous ont parlé de leur quotidien, de leurs pratiques et de leurs difficultés, mais aussi de leur fierté et de leur passion d'exercer ce métier.
Découvrez-les à travers ces portraits.
Le vin aliment, moi, ça me plaît. Ça accompagne un repas, c'est plein de vitamines, ça donne la joie. Enfin, faut pas en abuser non plus, mais c'est quelque chose qui s'accommode bien avec la nourriture. Et le vin nature permet justement ce côté aliment, parce que le raisin, il est sain quand il arrive dans le chai, il est absolument propre, sans chimie. Ensuite, il n'a pas de chimie non plus quand il est élaboré, parce que maintenant je ne sulfite plus depuis 2019, je ne filtre plus, donc je ne mets plus rien, que du raisin dans mes cuves. Donc voilà, c'est naturel, c'est un aliment, c'est devenu un aliment à part entière. Je suis Elisabeth Jacquier, je suis vigneronne à Gignac, et les vignes sont réparties sur 3 îlots, à Saint-Saturnin, Arboras, sur le Causse, et à Niane. Donc je me suis installée en 2012, j'avais acheté une parcelle de vigne sur Saint-Saturnin et donc je me suis déportée vers ici. Mais je n'avais pas de chai au début quand j'ai commencé, donc j'habitais Gignac, mais je vinifiais chez ma voisine, chez Bénédicte Tournet au domaine de Salente. Ça jusqu'en 2018, donc quand on a acheté ici à Boissonnade, on a fait des travaux et on s'est installé, on a installé le chai en 2018. Et on s'est installé ensuite, on a habité sur place, ce qui était beaucoup plus simple. Donc je suis œnologue de formation, donc j'ai fait des études d'œnologie qui m'ont passionnée et sur Bordeaux. J'étais à Bordeaux à l'époque, j'avais des attaches bordelaises puisque ma grand-mère habitait au milieu des vignes de Saint-Émilion. Donc je pense que ça a dû jouer aussi dans mon choix. Et ensuite, donc, j'ai travaillé pendant longtemps chez des négociants. Et finalement, j'ai eu envie de travailler pour moi-même, de reprendre attache avec la nature, voilà, d'être plus libre de mes mouvements, de mes choix. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire du vin. Mais c'est vrai que c'était une idée qui m'avait déjà germé depuis longtemps. Parce que les gens qui me connaissent me disent, tiens, tu as réalisé ce que tu voulais faire depuis longtemps. Et ça, je n'en avais pas conscience. Et donc, voilà, donc je me suis installée tout doucement. J'ai travaillé chez quelques viticulteurs pour voir si ce n'était pas trop difficile, si ça vraiment c'est quelque chose qui me branchait. Et effectivement, j'ai eu la confirmation. Et donc, j'ai commencé par une parcelle de 85 hectares. C'est rien. Donc, sur cette parcelle, il y avait du grenache blanc et du cinsault. Et donc, j'ai fait grenache blanc, du blanc. Et avec le cinsault, j'ai fait rosé et rouge.
S'occuper des vins des autres, quand on est œnologue dans une cave coopérative ou dans des caves privées, ça n'a rien à voir de remettre les mains dans la terre et d'aller faire repousser le raisin.
Oui, parce que quand on est œnologue, on est surtout dans la cave, justement. Hein. On accueille le raisin et puis ensuite, on suit jusqu'à... Mais on a des cahiers des charges. Il faut qu'on fasse le vin que le négociant veut pour ses clients. Donc, c'est pas sa propre aventure, mais... En même temps, quand on aime le vin, on travaille dans le vin, c'est quand même très sympa. Je ne renie pas du tout cette période-là. Et par contre, quand j'ai pris ma propre affaire, là, j'ai fait du vin complètement différemment. C'est-à-dire que j'ai tendu vers zéro traitement, on va dire. Mais bon, traitement dans la vigne, on est obligé d'en faire un peu quand même. Donc sur les raisins, donc au départ, c'est vrai, je sulfitais un tout petit peu. Le soufre, on dit que c'est l'aspirine du vin, c'est-à-dire que c'est le médicament universel qui permet donc de limiter les levures et les bactéries, donc qui est un antifongique et qui est aussi un antioxydant en même temps. Donc en fait, le vin, quand on le trimballe d'une cuve à l'autre, quand on rentre de la vendange qui est un petit peu abîmée, disons, ou à la machine, on sulfite. Comme ça protège des oxydations et des déviations.
Parce que les levures et les champignons, c'est bon pour faire du vin, non ?
Alors oui, il y a les bonnes levures et les mauvaises levures. Hein. Donc c'est surtout les bactéries qui se développent et qui sont vraiment maintenues par le soufre. Hein. Très sensibles au soufre, les bactéries. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'aspirine du vin.
Vous vous installez donc ici avec un petit morceau, 85 hectares, et ensuite vous...
Ensuite, ben, ça s'est vite, développé, parce que l'année suivante, j'avais un grenache noir qui m'était proposé à l'achat. Et en 2017, donc 4 ans après, j'ai eu une grosse parcelle sur Arboras. Là, il y avait du cinsault, de la syrah. Donc, j'ai pu faire un terrasse du Larzac, puisque terrasse du Larzac, il faut, faut avoir au moins 3 cépages, dont 2 dits qualitatifs. Voilà, donc je n'avais que du cinsault et du grenat, je ne pouvais pas en faire. Avec la syrah, j'ai pu faire une cuvée de terrasse.
Alors, cépage qualitatif, moi, on nous a parlé des cépages améliorateurs.
Non, en fait, je dis qualitatif parce que je ne trouvais pas le mot, mais c'est vrai que voilà, ce sont les cépages nobles de l'appellation grenache, carignan, syrah, mourvèdre. Ce sont vraiment les cépages nobles pour faire du rouge. Et en revanche, le cinsault, par exemple, c'est un cépage dit secondaire, où donc là, il faut en mettre moins de 20% dans l'assemblage.
Revenons aux raisins, parce que pour faire un vin de qualité, je pense qu'il faut des raisins de qualité. Et pour faire des raisins de qualité, il faut cultiver. Comment vous les cultivez, ces
Alors,
raisins?
Moi, je cultive en bio. Je respecte largement les cahiers des charges de la viticulture biologique, parce que bon, je mets beaucoup moins. Effectivement, j'essaye de mettre minimum de traitement, mais il faut quand même en mettre, parce qu'il y a les maladies qui sont là, qui nous guettent, comme l'oïdium, le mildiou. Et dès qu'il y a des conditions climatiques qui favorisent le développement de ces maladies, ben, elles s'engouffrent dans la brèche. Hein. C'est des maladies qui sont, vraiment, comme vous dites, ancestrales et qui font partie intrinsèque du vignoble. Contre l'oïdium, oui, alors souffre, mais en même temps, j'essaye aussi de faire des traitements un peu préventifs, comme j'utilise beaucoup du petit lait. J'utilise aussi de la prêle. Donc j'essaye de faire les traitements le plus tôt possible avec des doses assez faibles de soufre, pour pouvoir justement éviter le développement précoce. Quelquefois, ben, on est obligé d'avoir quelques maladies qui se développent, c'est normal. Il faut l'accepter, sinon je ne serais pas en bio. Ce sont des produits qui sont des produits de surface, donc qui sont beaucoup moins intrusifs que les produits dits conventionnels. Donc on est obligé de refaire des traitements régulièrement, plus ou moins régulièrement. Voilà, on essaye de jouer un petit peu sur le fil comme ça.
Et quand vous voyez les maladies, est-ce qu'il y a une appréhension? Est-ce que c'est tout de suite quelque chose qui vous préoccupe?
Si on a bien démarré la campagne, c'est-à-dire si on a bien suivi à partir du débourrement jusqu'à, disons, la formation... Là, à cette époque-là, on est à la formation de la grappe. La grappe, elle est pratiquement... sur certains cépages, presque à la fermeture, pas tout à fait, mais on est après la floraison, disons. Donc, on a passé vraiment les stades les plus fragiles. Donc, quand on a bien passé ces stades-là, après, on est beaucoup plus serein.
Ces cèpes de vigne, ils sont plantés dans la terre. Et la terre, il faut aussi s'en préoccuper, voire s'en occuper. Vous en occupez comment, vous ?
Alors, la terre. Alors, c'est vrai qu'au début, je faisais de temps en temps des labours. Et c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté, parce que je tends à éviter la mécanisation de la vigne en général. Donc, les tracteurs, par exemple. Donc, le passage du tracteur, ça tasse le sol, on le sait, hein, surtout quand on passe toujours dans les mêmes rangées, quand on fait les traitements, etc. Donc, pour le sol, j'ai un monsieur qui s'appelle Frédéric, qui vient avec son cheval et qui fait sous le rang. Voilà, maintenant, c'est quelque chose que je fais régulièrement tous les ans avec lui. Donc des butages, des cavaillonnages. Donc ça me permet d'avoir sous le rang un labour qui permet à l'eau de mieux pénétrer dans le sol et puis d'éviter des plantes qui montraient un petit peu trop dans les pieds, quoi.
La terre, on la travaille, mais on la nourrit aussi.
Non, pas spécialement. Je n'apporte rien sur le sol. J'ai donc de l'herbe qui pousse, évidemment. Donc je laisse une couverture sur le sol. Et il n'y a pas d'amendement.
Et est-ce que vous arrosez vos vignes ?
Non, sûrement pas. Non, non. C'est un choix. C'est un choix. Je pense que ça serait contraire à ce qui se passe actuellement dans le monde, hein, que d'utiliser de l'eau pour arroser la vigne. D'abord, on lui envoie des signaux qui sont faux, parce qu'on lui envoie des signaux d'eau. Donc, elle va se développer, mais dans un milieu très sec. Donc, c'est un petit peu contradictoire pour moi. On la rend feignante, mais en même temps, on la fragilise parce qu'elle va continuer à pousser. Et malgré ça, elle n'aura pas tous les signaux qui iront dans le même sens, dire dans le sens de la sécheresse ou dans le sens de l'eau. parce qu'il fait très chaud l'été quand même, donc la vigne, il faut qu'elle arrête sa croissance à un moment donné et qu'elle s'occupe de ses raisins. Je pense que l'agriculture, industrielle, elle a été mise en place pour les industriels. Elle n'a pas été mise en place pour l'agriculture. C'est-à-dire pour les industriels qui vendent de la mécanique, qui vendent des produits, qui vendent de la viande pas chère, etc., etc., qui transforment. Ça a été fait pour l'industrie, cette agriculture. Après, là, je parle de maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment les industriels qui ont mis en place cet outil pour répondre à leurs besoins. Point final. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus. Ben, le monde politique, il écoute ce qu'on lui dit. Il écoute les gens et ils répondent aux demandes des lobbies, je pense, plus ou moins. Je veux pas, parce que je n'y connais rien, je ne suis pas politique du tout, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a une écoute à un moment donné qui va dans un sens, et quand il y a un reflux ou la vague va dans l'autre sens, ben, l'écoute peut-être, on imagine, on espère que l'écoute va aller dans un autre sens. Enfin, moi, je fais ce que j'ai à faire, et je pense que c'est les consommateurs qui doivent inciter les industriels à réfléchir. D'ailleurs, on voit déjà le bio, il a pris une place importante. Bon, on commence à avoir des critiques du bio, parce que ça arrange qu'il y ait des critiques du bio en disant que la consommation du bio a diminué, etc. Mais je pense que quand même, les gens, maintenant, ils ont conscience. On voit dans certaines villes les offres locales qui sont faites. On essaye d'inciter les gens à manger plus sainement. Pour moi, les politiques, ils suivent beaucoup les tendances. Bah après, c'est au consommateur de faire le choix, de faire le bon choix quand il achète quelque chose, de dire tiens, bah, au lieu d'acheter quelque chose qui arrive de l'autre bout du monde, achetons quelque chose qui est du coin ou même d'Europe, au pire. Voilà.
Sauf que l'éducation du consommateur, c'est la publicité qu'il a fait.
Malheureusement. Et des enfants surtout. Hein, les enfants, ils sont de plus en plus sur leur connectés. Donc effectivement, on peut faire passer toutes sortes de messages. Il y a du bon et du moins bon. Il y a toujours le revers de la médaille.
On parlait de consommateurs, comment on le consomme? Où on le consomme, votre vin? Où on peut le trouver?
Alors mon vin, on le trouve à l'autre bout du monde aussi, malheureusement. Enfin si, pas malheureusement, mais je l'exporte. Donc le plus loin, c'est le Japon. Ensuite, l'Europe du Nord, beaucoup. Ensuite Paris, local. Aux boutiques paysannes ou même bon, ici en direct. Hein. Donc en fait, moi, le vin, ce que je veux, c'est faire un vin qui plaise aux consommateurs, qui soit digeste, qui soit pas trop cher non plus, parce que je trouve que monter les prix, c'est bien joli, mais à ce moment-là, ça ne rend plus le vin accessible à tout le monde. Je trouve ça dommage. Donc mes prix, ils sont maintenus à un niveau qui me permettent de vivre et en même temps qui permettent aussi d'avoir un accès plus large.
Est-ce qu'on n'est pas, on n'a pas changé aussi au niveau du consommateur ou des habitudes de consommation d'un vin aliment à un vin plus plaisir, un vin plus émotion, un vin...
Oui. Alors moi, je trouve que le vin aliment, moi, ça me plaît parce que je trouve que c'est, pour moi, c'est un aliment. Ça accompagne un repas. C'est plein de vitamines, ça donne la joie, enfin, il ne faut pas en abuser non plus, mais c'est quelque chose qui s'accommode bien avec la nourriture. On n'est pas obligé d'en boire tous les jours, mais c'est quand même les repas de fête sans vin, c'est pas un repas de fête. Hein, et le vin nature permet justement ce côté aliment, parce que le raisin, il est sain quand il arrive dans le chai, il est absolument propre, on va dire, sans chimie. Ensuite, il n'a pas de chimie non plus quand il est élaboré, parce que maintenant, je ne sulfite plus depuis 2019. Je ne filtre plus. Donc, je ne mets plus rien que du raisin dans mes cuves. Donc, voilà, c'est naturel. C'est un aliment. C'est devenu un aliment à part entière.
Pourquoi donc, puisque vous faites du vin sans sulfite, sans rien, Pourquoi un tas de vignerons y mettent un certain nombre d'ingrédients qui attaquent la santé des gens et des consommateurs ?
Le problème, c'est que souvent, on ne se fait pas assez confiance quand on fait quelque chose. En fait, quand on a il faut avoir confiance dans son produit. On ne peut pas faire du vin nature sur des trop grosses exploitations. Parce que qui dit grosse exploitation dit mécanisation. Et qui dit mécanisation dit une vendange qui forcément n'est pas la même que celle que moi je récolte. Parce que il y a plus de frais et donc on est obligé peut-être de faire plus de rendement. Qui dit plus de rendement, dit plus de traitement. Il y a voilà,
c'est un cercle non vertueux.
Voilà, c'est pas du tout le même chemin. Voilà, c'est un choix. Maintenant, moi, je vends mon vin, je vends tout mon vin, j'en ai même pas assez. Donc c'est un choix. Mon exploitation, enfin, j'aime pas trop ce terme-là, mais elle est à taille humaine. C'est-à-dire que je maîtrise. Je maîtrise le temps, je maîtrise le temps que je passe à la vigne. Je suis pas débordée. Je n'ai pas de coûts trop élevés, par exemple, de matériel pour la vigne, de tracteur. J'ai pas de tracteur. J'ai un quad avec un petit pulvé. Et donc, je fais mes traitements comme ça. Tout est lié. Tout est lié.
Et qu'est-ce qui caractérise votre vin ?
Donc mes vins, c'est des vins qui sont droits, qui sont propres, premièrement. Ensuite, je travaille beaucoup sur les cépages. Je fais beaucoup de cuvées parcellaires. Voilà. Mais j'essaye aussi de faire des assemblages, les assemblages qui vont bien, par exemple Grenache Cinsault, Grenache Syrah, Carignan Mourvèdre, c'est des assemblages qui sont intéressants. Après, ce qui caractérise mes vins, c'est beaucoup de cuvées différentes, pas toujours les mêmes chaque année. Voilà, je m'accorde avec le millésime surtout. Et j'essaye d'avancer, de trouver toujours des nouvelles choses à faire, à proposer, quand j'ai quelque chose qui me plaît.
Vous expérimentez en fait sans arrêt aussi pour fonction des assemblages, les levures.
Alors les levures sont les levures indigènes, sont les levures qui viennent du raisin. Après l'expérimentation, oui et non, parce que je suis pas dans le côté toujours à chercher absolument à trouver quelque chose. Je préfère que ça vienne à moi. Voilà. Et je chope les trucs quand ça m'intéresse, je les utilise, je les pérennise quand c'est intéressant.
Des éleveurs aiment leurs animaux, vous aimez vos vignes, vous ?
Ah oui, j'aime mes vignes, oui, oui.
Il y a un rapport.
Ah ben oui, il y a un rapport. Il y a un rapport parce que je taille, je les surveille comme un enfant, quoi. C'est vraiment.
Vous avez la chance de. Ils finissent pas à l'abattoir.
Eh oui.
C'est pas mal quand même.
Ouais,
parce qu'on a vu des éleveurs, je ne dis pas avoir la larmette à l'œil, mais amener leur bête à l'abattoir avec peu d'appréhension, tellement que les éleveurs qu'on a pu rencontrer sont en train de se poser la question de la souffrance de leurs animaux dans le transport, par exemple, et d'essayer de faire de l'abattage à la ferme.
Oui, et puis en fait, on imagine ce qui se passe en France, mais est-ce qu'on imagine ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis ou dans le monde où c'est moins précautionneux au niveau industriel, hein, où vraiment, c'est des productions de masse. C'est même plus industriel, c'est de la production de masse. Et où l'animal est une valeur ajoutée, c'est tout à la rigueur. Voilà, c'est terrible quand on voit, c'est vrai, ces transports d'animaux vivants et tout ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça encore de nos jours, quoi ?
Est-ce que vous avez des soutiens, des aides de l'État ?
On a voulu, au départ, quand on a démarré, on a voulu avoir des aides de la communauté européenne. Des aides pour les travaux, pour l'achat de matériel, des cuves et des machins comme ça. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est très très compliqué. Et pour des petits domaines comme nous, finalement, c'est pas très intéressant. Enfin, par rapport à ce qu'on pourrait avoir, c'est pas très intéressant. Par contre, si on a un gros investissement, pour les gros domaines, en général, ou les caves coopératives, c'est elles qui bénéficient souvent de ces aides-là.
Dans le département de l'Hérault, il y a peut-être trop de vignes. Et est-ce que vous pourriez envisager d'arracher vos vignes pour mettre des légumes, parce qu'on a peut-être besoin d'autonomie alimentaire ? L'Hérault est le département qui importe le plus de légumes et de fruits en France.
Ah oui, c'est bien dommage. Et quand on voit les difficultés qu'ont les maraîchers à s'installer, à s'installer, même sur Gignac. Là, il y a eu, quand on a fait la boutique paysanne, c'est un levier formidable pour ce genre de, pour les maraîchers qui peuvent écouler toute leur production dans une boutique paysanne. Donc, et comme on voit les bâtons dans les roues qui sont mis pour ces gens-là qui veulent s'installer, avoir de l'eau, avoir un terrain, avoir pouvoir habiter à côté, c'est très difficile. Oui, en même temps, il y a aussi ce côté immobilier qui prend le dessus sur nos villages. Là, on voit bien que ce sont des villages qui se sont agrandis à vitesse grand V. Donc, il faut laisser une place à l'agriculture, c'est très important. C'est un patrimoine.
Et c'est vrai que ce territoire-là était destiné à l'olivier et à la vigne. Ça va peut-être pas durer, non, avec le dérèglement.
Alors, forcément, mais ici, il y avait de l'élevage. Ici, par exemple, c'était une ferme. C'est une ferme d'élevage où il y avait des moutons. Il y avait beaucoup de moutons ici. Voilà. Et ça, c'est vrai que la vigne s'est installée et a pris le dessus. Mais on voit quand même des élevages qui finissent par voir le jour quand même. Mais c'est très dur. C'est très dur, l'élevage. Il faut de la place, il faut énormément de place, voilà.
Un rêve, là, pour les années qui viennent
Un rêve, ça serait que le monde change, évidemment. Mais qu'on puisse... Nous, je pense qu'on est pas mal, là. Maintenant, il faut qu'on essaye d'accueillir peut-être plus de monde sur la ferme, voilà. Mais bon, on est après 2012, ça fait presque 11-12 ans, on est bien. Après, moi, j'ai peur, évidemment, parce que quand je vois ce dérèglement climatique, je me dis, voilà, est-ce que la vigne va supporter ? Là, cette année, on a eu la chance d'avoir un printemps clément avec de l'eau. Donc, ça s'est bien passé par rapport à l'année dernière où il a fait très, très, très chaud. Donc, voilà, il faut... Je veux dire, on n'est pas maître de tout. On n'est pas maître du climat. Non, notre grand maître, c'est le climat.
C'était Elisabeth Jacquier, un portrait d'agricultrice réalisé par Radio Pays d'Hérault en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault. Tous les podcasts sur rphfm.org.